artisans d'un autre monde.
Commerce équitable.
Équité.
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 Commerce équitable.
Solidarité.
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 Commerce équitable.
Égalité.
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 Commerce équitable.
Citoyenneté.
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 Artisans d'un autre monde.
Bonjour et bienvenue dans l'émission mensuelle animée par les bénévoles d'Artisans du Monde Évreux, association de commerce équitable. Venez nous voir dans notre boutique à Évreux, place de la mairie.
Pour mémoire, nos émissions sont maintenant bimensuelles. Chaque nouvelle émission est donc rediffusée le mois suivant. Depuis notre dernière émission, d'octobre donc, le confinement s'est réinstallé, apportant avec lui son lot de complications et obligeant chacun à s'adapter. Artisans du Monde Évreux a donc réactivé son système de drive initialement mis en place lors du premier confinement. Aujourd'hui, francisé sous l'appellation de « clic et rapplique », il permet à nos clients de passer commande sur Internet puis de récupérer leurs achats à la boutique dans le strict respect des consignes sanitaires. Cette facilité permet à chacun de profiter entre autres des nombreux produits d'artisanat disponibles pour offrir des cadeaux de fin d'année originaux, rares et qui aident nos artisans à vivre décemment dans cette situation qui les impacte plus encore que nous tous. Tous les bénévoles vous souhaitent une belle fin d'année, pleine de partage et de démarches équitables, ça va sans dire. Faites attention et prenez soin de vous.
Ce mois-ci, Carla explique à Claudine ses motivations à séjourner dans notre association et détaille sa vision affûtée du commerce équitable. Naïma et Didier échangent sur nos liens avec des producteurs palestiniens. Et enfin, dans notre rubrique traditionnelle « Paroles de bénévoles », Claudine interroge Luc sur son parcours chez Artisans du Monde. Quant à moi, je vous retrouve en fin d'émission pour l'agenda.
Mais avant, en cette période hivernale, réchauffons-nous sous le soleil tropical d'une de ces plages paradisiaques. Oui, celle-là, juste à côté de celle de Copacabana.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
When she passes, each one she passes goes, ah.
walks to the sea. She looks straight ahead, not at me.
Bien, ce mois-ci, on reçoit Carla. Bonjour Carla.
Bonjour.
Alors, tu es une nouvelle à ADL, Évreux. Es-tu ici en tant que bénévole ?
Alors, pas vraiment. Moi, en fait, je suis en stage ici. Je fais un stage artisan du monde entre septembre et décembre, donc environ 4 mois. Mais je fais ça en parallèle de mes études, donc à temps partiel, parce que j'étudie à côté de l'économie, de la sociologie et surtout des relations internationales. Normalement à Paris, mais là ça se fait sur Zoom, donc en ligne, et c'est pour ça que je suis de retour en Normandie, chez mes parents.
Donc tu es d'Évreux ?
De base, oui, j'ai grandi à Évreux, je suis née et grandi à Évreux.
Très bien. Mmh. Et pourquoi alors as-tu choisi notre association, puisqu'à Évreux il y a beaucoup d'associations, pourquoi la nôtre ?
Alors j'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche au développement durable en fait, que ça soit à peu près la dimension environnementale, économique ou sociale. Comme je fais des études d'économie, ça m'a un peu orientée dans ce chemin-là. Alors pas vraiment parce que on m'a présenté plusieurs formes d'économie possibles, mais plutôt parce que justement j'ai été éduquée avec le modèle économique dominant, le modèle classique et capitaliste. Et justement, on m'a pas énormément montré qu'il y avait d'autres alternatives possibles. Mais je pense que qu'il faut aussi regarder ces alternatives possibles et se rendre compte qu'il y a beaucoup de dérives au modèle économique dominant. C'est pour ça que moi, c'était des questions qui m'intéressaient beaucoup. Que ça soit lié à la pauvreté, à la sous-alimentation, par exemple, ou les dégâts environnementaux. Et j'ai notamment eu l'occasion de prendre un peu conscience de cette face sombre, parce que j'ai été bénévole dans plusieurs associations qui sont engagées dans la lutte contre la précarité. Donc j'ai notamment été bénévole à l'association Paris Solidaire, qui est une association étudiante et qui organise des maraudes. Donc en fait, toutes les semaines, on est allé voir les sans-abri qui habitent dans les rues à côté de mon université pour essayer de discuter avec eux, tisser du lien social. Bah évidemment, on les sortait pas de la pauvreté, mais c'était déjà un chemin vers peut-être un accompagnement social. J'ai également aidé dans un centre d'hébergement d'urgence à Paris, un centre d'hébergement qui accueille des hommes en situation de très grande précarité. Et finalement, j'ai aussi aidé dans un vestiaire solidaire, donc qui propose des vêtements pour là aussi c'était pour des hommes sans abri. Le centre d'hébergement d'urgence et le vestiaire, c'était des structures des Restos du Cœur de Paris. Et c'était des expériences qui ont été très enrichissantes pour moi, qui ont été très compliquées aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements à chaque fois un peu difficiles à gérer, mais c'était très enrichissant et ça permet de forger le caractère un peu. Et donc voilà, je me suis dirigée vers Artisans du Monde parce que ça propose une approche qui est différente par rapport au développement durable et qui s'ancre pleinement dans l'économie sociale et solidaire, et c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et c'est pour ça que je souhaitais un peu voir comment ça se passait ici et voir les activités que vous proposez.
Oui, parce que ça ne se voit pas à la radio, mais Carla est jeune. Et je voulais aussi, d'ailleurs, c'est une question peut-être un peu trop personnelle, mais vers quel âge t'as eu un déclic pour justement te tourner vers autre chose que ton univers hébroïcien, on va dire?
Je pense que c'était vers le début du lycée que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à de grandes problématiques sociales, si je peux dire, actuelles. Par exemple, je sais pas, enfin, c'est anecdotique, mais j'ai fait mon TPE, mon travail de personnel encadré en première sur la question des crises alimentaires mondiales. Mmh. Et ça me passionnait comme sujet. En fait, je sais pas, je pense que c'est à partir du lycée que j'ai beaucoup été intéressée par ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai une famille qui est très internationale. Mon père est notamment néerlandais. Il vient d'une petite île à côté du Venezuela, où en fait la pauvreté est très très importante là-bas. Donc j'ai eu le temps de, enfin j'ai eu l'occasion d'y aller une fois et je pense que ça m'a suffisamment marqué pour que ça influence un peu mes idées à côté.
Bien sûr. Pour revenir sur Artisan du Monde, quelle définition tu donnerais du commerce équitable alors ?
Alors, je pense qu'on pourrait définir le commerce équitable comme un mode de commerce qui valoriserait surtout des modes de production, d'échange et de consommation. Je pense que les trois composantes sont essentielles, qu'ils soient plus justes, plus humains et aussi plus durables. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi... Si on pourrait donner une définition un peu plus globale, je pense que c'est aussi un aspect commercial et économique qui serait présent dans un modèle de société qui met l'humain et son environnement à la place principale, au top du podium, quoi. Mmh. Et je pense qu'il faut...
Voilà. C'est d'ailleurs une des bases d'Artisans du Monde. Mmh. Et alors, une question un petit peu difficile, mais allons-y. Mmh. Penses-tu que le commerce actuellement puisse devenir tel qu'il se pratique, tu vois, essentiellement dans le monde, puisque nous représentons très peu, hein, avec le commerce équitable, Artisans du Monde. Est-ce que tu penses que le commerce, il peut devenir vraiment seulement équitable?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est compliqué, hein, de répondre à ça. Bah, je pense que déjà, il faut comprendre que le commerce équitable tel qu'il est pratiqué par Artisans du Monde ou par d'autres associations du commerce équitable, c'est comment dire, il n'est pas destiné à être à se pérenniser, à rester dans le temps, parce que justement, s'il existe aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème avec le modèle commercial dominant. Et à terme, dans des projections optimistes, je l'espère, c'est ce modèle dominant qui est censé muter pour inclure davantage de dimensions sociales et environnementales et également économiques. Mais je pense qu'il faut garder espoir qu'il y ait un changement. Et je pense que c'est un changement de société qui est beaucoup plus global que seulement prendre en compte la question économique. Parce qu'on vit toujours dans une société qui est aussi patriarcale et qui accepte et qui pérennise encore plus des formes de discrimination. Et je pense que favoriser le commerce équitable, vouloir une forme de commerce plus équitable, c'est aussi vouloir un changement de société plus large.
Oui, ça élargit, ça dépasse la notion de commerce équitable. Alors, une question aussi peut-être pas trop facile, quelle est la place de la filière intégrée à Artisans du Monde? On va voir si t'as bien retenu.
Ah oui, j'ai bien retenu, j'ai fait mes petites recherches. Non, donc Artisans du Monde se positionne comme une filière de commerce équitable, c'est-à-dire que en fait, déjà il y a le moins d'intermédiaires possible entre le producteur et le consommateur, et toutes les parties prenantes à ce processus de entre la production et la consommation prennent part au commerce équitable, à part le transport. Et donc ça implique de respecter certaines règles, par exemple avoir des organisations qui sont transparentes, qui sont démocratiques, également favoriser un salaire minimum pour les producteurs. Voilà, toutes ces petites choses.
D'accord. Alors, bon, ça fait déjà quelques semaines que tu es parmi nous, et on est ravis d'ailleurs de t'avoir. Et on voulait te demander aussi, quel regard portais-tu sur notre association avant ton arrivée chez nous? Et ensuite, je te pose la question qui va s'enchaîner, et ton regard a-t-il été modifié depuis?
Alors, je pense qu'il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que j'avais pas vraiment conscience de la diversité des actions que vous proposiez à Artisans du Monde. Moi, je pensais que c'était essentiellement tourné vers la vente et pas tout ce qui va à côté et pas la sensibilisation, parce que moi, ce que j'en déduis, c'est que la vente, c'est juste un argument pour proposer un modèle de sensibilisation et faire prendre conscience aux gens qu'il y a d'autres modes d'économie qui sont possibles. Et en fait, mon regard, il a été aussi modifié dans le sens où j'ai pris conscience qu'on pouvait chacun agir à notre petite échelle individuelle, et que, bon, nous, on est Artisans du Monde Évreux, c'est pas une métropole dominante à échelle mondiale, mais on peut quand même agir individuellement, et c'est un acte citoyen d'agir individuellement pour pas forcément acheter que tous nos produits sur Amazon. On peut aussi faire vivre les petits commerces, et notamment dans la période actuelle, je pense que c'est très important.
Tout à fait. Oui, d'ailleurs, même nous, Artisans du Monde, on a des fonctions, enfin, si on peut dire, différentes. Hein. Certains sont plutôt sur la vente, mais d'autres sur la sensibilisation au commerce équitable. Donc déjà, nous-mêmes, hein, on applique ça, cette diversité. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour que Évreux, Artisans du Monde, se développe davantage?
Alors, je sais pas si j'ai vraiment de conseils à donner, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien chez votre équipe de bénévoles, c'est que vous essayez de toucher un public le plus large possible, notamment en développant les réseaux sociaux, et je pense que ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est pas vraiment un conseil, mais je pense qu'il faudrait continuer à développer cet ancrage sur les réseaux sociaux. Et après, j'espère que dans le futur, les conditions permettront de mettre en place d'autres activités, je sais pas, faire des portes ouvertes, des choses comme ça pour toujours faire connaître un maximum de gens possible.
Oui, c'est bien, opération porte ouverte, c'est intéressant. Bon, là, on ouvre de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut peut-être le développer davantage. Écoute, Carla, un grand, grand merci. Merci à toi et puis bonne route.
Merci. Avions évoqué le Liban. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage en Palestine, plus précisément à Bethléem, en Cisjordanie, environ une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et Didier, tu vas nous présenter la coopérative BFTA.
Oui, bonjour Naïma. C'est une habitante de Bethléem, Suzanne Saori, qui a fondé cette ONG BFTA en 2009 pour soutenir et développer le secteur de l'artisanat dans la ville de Bethléem. Au début, elle ne recevait pas de salaire, mais aujourd'hui, il y a 6 collaborateurs qui travaillent avec elle.
Et pourtant, Bethléem, c'est une ville très touristique, notamment à la période de Noël.
Oui, mais malgré son fort potentiel touristique, Bethléem reste très affectée par la situation politique. Implantation de colonies, de clôtures, de checkpoints, avec des conflits avec les pays avoisinants, ce qui crée de nombreux obstacles au tourisme. Confrontés à l'occupation israélienne, les producteurs rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder au marché, que ce soit les marchés locaux ou internationaux, pour écouler leur production. Ces obstacles sont évidemment liés à la situation géopolitique régionale très instable. De ce fait, BFTA met en avant les principes du commerce équitable. Procurer aux artisans un revenu juste et stable.
Selon mes informations, les artisans dont justement tu viens de parler, ce sont des groupes marginalisés de la société. 53 ateliers familiaux, généralement ce sont les familles qui perpétuent la tradition génération en génération. Et le plus souvent ce sont des femmes, 50 coopératives de femmes qui contribuent à soutenir économiquement leur famille, auxquelles s'ajoutent 5 groupes de personnes handicapées. Et puis il faut aussi compter sur 2 camps de réfugiés et bien évidemment de nombreuses personnes qui vivent sous contrôle israélien et à proximité du mur. Et il est important de préciser que cette coopérative, BFTA, ne joue en aucun cas le rôle de grossiste. Ce sont les artisans qui sont les travailleurs indépendants, ce ne sont pas ses employés, ils travaillent à leur compte. Est-ce que tu peux nous détailler les principales missions alors de cette coopérative ?
Eh oui, effectivement, de manière générale, le but de ces missions, c'est d'améliorer les conditions des populations vulnérables. C'est-à-dire accompagner les artisans dans la commercialisation, tant au niveau local qu'à l'export, en les soutenant dans des démarches de marketing, de diversification, de professionnalisation. Cela leur permet d'améliorer leurs outils de production et les conditions de travail, dans un contexte où tout est toujours très compliqué. La BFTA a ouvert de nouveaux marchés et a doublé ses ventes au cours des dernières années, ce qui a permis de sortir des centaines de gens de la pauvreté.
Alors, on peut ajouter aussi aux missions que tu viens présenter les compétences des artisans qui sont renforcées grâce à des cours qu'on leur propose. Ça peut être des cours d'informatique pour créer un site, des cours d'anglais, des formations pour améliorer la qualité et la finition des produits, et puis aussi les sensibiliser au commerce équitable. Et enfin, il est très important de les responsabiliser, ces producteurs, pour les aider à devenir leurs propres acteurs et qu'ils puissent vivre de leurs propres moyens de subsistance et développer leurs droits sociaux. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que fabriquent ces producteurs ?
Alors, il y a des ateliers de céramique et de verre soufflé qui produisent de la vaisselle très colorée, tout en respectant la culture et les traditions palestiniennes. Ils s'adaptent même au marché international en fabriquant une vaisselle qui résiste au lave-vaisselle et au micro-ondes. Dans une autre ville de Cisjordanie, à Hébron, on utilise des savoir-faire traditionnels pour produire des broderies. Mais tu connais bien sûr, Naïma, l'arbre symbole de la Palestine.
Ah bah oui, évidemment, hein, c'est l'olivier. Mais malheureusement, ces dernières années, du fait des différents conflits, des milliers d'oliviers en Palestine ont été endommagés, même détruits, ce qui a eu de graves conséquences sur l'économie locale. Surtout que l'olivier, il est très utilisé dans cette région. Alors bien sûr, on récolte les olives pour les manger. On en extrait de l'huile pour cuisiner. C'est une tradition importante et de longue date du Moyen-Orient. Mais avec cette huile, on produit aussi du savon. Ce sont d'ailleurs les femmes réfugiées dont j'ai parlé précédemment qui s'en occupent, la coopérative Asia. Et devine le pays où ce savon se vend le mieux ?
Eh bien oui, c'est ici en France. Hein. On aime bien le savon qui vient de la Palestine. Et pour en finir avec les oliviers, il y a d'autres utilisations ?
Oui, parce qu'une fois qu'on a élagué les branches des oliviers, on se sert du bois pour sculpter des figurines, des crèches, et puis des ustensiles aussi.
Alors, si vous voulez retrouver ces différents produits, n'hésitez pas à venir faire un tour dans notre boutique, place du Général de Gaulle, où nous serons heureux de vous accueillir. Vous pourrez trouver également, en plus, des dattes medjoul, moelleuses et sucrées, du maftoul. Le maftoul, c'est le couscous palestinien. Merci Naïma, à bientôt.
Merci Didier, au revoir, à bientôt. ADN, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs.
Tout à fait.
Et depuis quand es-tu donc dans notre asile ?
Je suis bénévole depuis, alors j'ai pas vraiment compté, mais on va dire une petite dizaine d'années, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ouais.
D'accord. Alors question rituelle, qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie du groupe ?
Alors qu'est-ce qui m'a motivé ? En fait, pour être tout à fait clair, j'ai longtemps fait, artisan du Téléthon. En fait, sur Évreux, on a, avec des amis, on avait créé le Téléthon sur Évreux. Il n'existait pas. Et pendant plusieurs années, j'ai participé et animé et piloté le groupe du Téléthon. Et ensuite, il y a une quinzaine d'années, j'ai changé de travail. Je me suis retrouvé sur une activité professionnelle sur Rouen, qui fait que je pouvais plus vraiment participer au Téléthon. Et je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose. Et puis en fait, je suis arrivé artisan du monde parce que mon épouse, elle, était artisan du monde depuis très longtemps, quoi. Et je savais que c'était quand même une activité et puis une motivation qui me plaisait bien. C'est ce qui m'a motivé de rentrer dans ce groupe.
Bon, alors, une question est peut-être stupide, mais enfin, je la posais quand même. Je l'avais prévu. As-tu eu envie à un moment de quitter notre asso ?
Non. Non, parce que honnêtement. J'ai fait partie de pas mal d'associations et c'est certainement celle où je trouve qu'il y a une excellente ambiance et en plus les gens qui gèrent l'association ont trouvé un rythme intéressant dans la mesure où on a des réunions mensuelles Et ça, quelque part, pour garder un esprit d'équipe, pour garder un contact avec l'ensemble des membres, de mémoire, on doit être au moins une quarantaine hein, dans cette association,
oui, à peu près
de bénévoles. Inévitablement, les 40 personnes, on n'a jamais l'occasion de les rencontrer régulièrement. Alors que, à travers ces réunions, ça nous permet une fois par mois de se voir. Et ça, ça crée un lien, ça crée quelque chose qui m'a effectivement énormément plu au sein de cette association. Donc, clairement, j'ai jamais eu envie de quitter la sauce, quoi.
Bien. Alors, donc, le mouvement à Évreux existe depuis 2002. Toi, tu es depuis 7 ans, à peu près. Tu as trouvé des changements dans le fonctionnement, dans le groupe. Est-ce que tu les as sentis ou non? Tu trouves que c'est toujours la même chose?
Ah non, j'ai senti des changements. En lien principalement un peu avec l'activité que je fais au sein de cette association. Hein. Au début, je participais un peu à la boutique, avec entre autres en binôme avec mon épouse. Je te cacherai pas, c'est pas l'activité qui me plaît le plus. Et c'est ça qui est bien aussi au sein de cette association, c'est que chacun peut y trouver son compte en fonction des différentes activités possibles. Je suis plutôt, moi, dans un petit peu l'animation, en essayant un peu de faire connaître un peu ce que c'est que le commerce équitable, ce que c'est que Artisans du Monde. Et du coup, il y a quelques années, il y a eu ce groupe d'animation qui s'est créé. Et j'y trouve plus facilement ma place. Donc effectivement, les choses évoluent et cette association sait se remettre en cause. Hein. Actuellement, il y a plein de questions qui se posent sur comment redynamiser un peu le commerce autour de la boutique. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi.
Oui, d'ailleurs, tu fais partie de ceux qui ont créé un petit peu cette émission de radio grâce à Principe Actif.
D'ailleurs que je fais partie du groupe.
Voilà.
Tout à fait, oui.
Donc, comme tu parles de la nécessité de redynamiser, est-ce que tu pourrais, en une minute, convaincre un indécis à devenir un bénévole? Qu'est-ce que tu lui dirais? Enfin, une minute, approximativement, bien sûr.
Alors, un indécis, en fait, je pense que déjà, si la personne, elle a envie de s'intégrer dans une association, on va dire, un peu caritative, aide humanitaire. L'intérêt au sein d'Artisans du Monde et ADM Évreux, c'est qu'on peut vraiment faire beaucoup d'activités et les faire des activités en fonction de ce que l'on a envie. Comme je le disais, on a une boutique hein, à Évreux, place de la mairie. Bah, les gens qui ont envie un petit peu de faire de la vente, un peu s'occuper d'une boutique, de la décoration, être en contact avec les gens, eh bah, c'est une activité que la personne peut faire. Si par contre, elle est plus dans un peu sous la forme d'explication, sous la forme de passer des messages, on a aussi au sein de l'association un groupe qui fait de l'éducation, qui vont dans les écoles, et ça peut aussi motiver les gens. Ou alors quelqu'un qui a un peu des idées et qui veut faire des choses un peu différentes avec de l'événementiel, et ben à travers le groupe animation, ça nous arrive aussi, on met en place des activités événementielles, donc un autre type d'activité. Donc quelqu'un qui a vraiment envie, qui est motivé pour participer à un groupe, une association aide humanitaire caritative, et ben il y a vraiment le choix au sein de cette association de faire plusieurs choses différentes au gré de ses envies, quoi.
Et je te poserais presque la même question, mais cette fois-ci, si tu t'adressais à un acheteur qui n'est jamais entré dans notre boutique, comment tu essaierais de le convaincre? Et tu le fais d'ailleurs, je crois,
dans la boutique.
Oui, quand tu étais notre Père Noël.
Oui. Hein. En fait, la première chose, je pense que c'est lui dire, ben, rentrer à la boutique, c'est découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne ne sait pas trop ce que c'est que le commerce équitable ou ne se rend pas bien compte de quel type d'article on peut retrouver dans ce cadre, dans ce type de commerce, et bien rien que découvrir la boutique, déjà, ça peut être un premier pas en termes de curiosité. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Hein. Il y a de l'artisanat, bien sûr, mais il y a aussi de l'alimentaire. Et ça peut être intéressant. L'autre élément, je pense aussi, c'est que avec la crise que l'on vit aujourd'hui, hein, à travers le Covid, avec tous les aspects de confinement, on a vu, et tant mieux, un développement du commerce de proximité. Le commerce équitable, c'est beaucoup de produits qui sont pas de proximité, parce qu'on travaille beaucoup avec l'hémisphère sud, hein, avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, mais souvent, quand même, ce sont des produits qu'on ne trouve pas chez nous en France, qu'on ne trouve pas à proximité. Donc c'est très complémentaire. Donc ces personnes qui ont envie de développer le commerce de proximité, eh ben ils peuvent aussi développer le commerce équitable en venant dans notre boutique.
Et je parlais de toi donc en tant que Père Noël. J'explique un petit peu, c'est-à-dire que chaque année, tu endossais le costume de Père Noël et tu en profitais justement pour essayer de convaincre, quand on allait au marché, etc., convaincre d'éventuelles personnes, des personnes à être des futurs clients. Et cette année, hélas, tu seras pas Père Noël, hein, par
alors,
force.
Je te coupe tout de suite, oui. Hein, parce que s'il y a des enfants qui écoutent, oui. Le Père Noël, il va être là cette année.
Ah oui, c'est ça.
Simplement, je l'aidais de temps en temps. Et j'endossais pour aider parce qu'il a beaucoup de travail, le Père Noël, ce jour-là. Je l'aidais et je me mettais aussi avec l'habit du Père Noël. Cette année, je vais pas pouvoir l'aider. Hein, ouais. Il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Okay. Mais bon, je pense que les gens, dans une situation comme on vit aujourd'hui, hein, qui est quand même très délicate, bah, il faut qu'ils aient cet élan de solidarité et qu'ils participent à développer aussi bien sur d'autres aspects que le commerce équitable, mais tout particulièrement aussi cet aspect du commerce équitable.
Bon, bah écoute, on va se souhaiter quand même de bonnes fêtes.
De bonnes fêtes de fin d'année.
Et pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien, n'hésitez pas à venir, il y a plein de cadeaux pour tous. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci.
Joyeuses fêtes à toutes, à bientôt à la boutique.
Vous avez apprécié l'excellente prestation de Carla détaillant son point de vue sur le commerce équitable ? Alors ne ratez pas notre prochaine émission.
Donc en février, je tenterai de répondre à la question « Comment le commerce équitable participe à l'émancipation des femmes ?» Il faut savoir que parmi les 1,5 milliard de personnes qui sont pauvres dans le monde, 70% sont des femmes. Et les femmes ne reçoivent que 5% du revenu total mondial et elles possèdent moins de 1% des biens et des ressources. Et malgré une prise de conscience à l'échelle internationale des grandes inégalités qui existent entre les femmes et les hommes, et malgré aussi toutes les lois et toutes les conventions qui sont mises en place, eh bien l'égalité, en réalité, elle n'est pas présente. Et si on s'intéresse particulièrement à la sphère agricole dans les pays du Sud, parce que c'est souvent ce que vise le commerce équitable d'artisans du monde, on se rend compte que les femmes sont souvent privées de leurs droits, notamment à la terre, au crédit bancaire, à la protection sociale et aussi à la formation. En gagnant en indépendance économique, ça peut aussi leur permettre d'accéder à l'éducation et aux soins, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas mondialement.
Pas d'événements programmés à court terme, confinement oblige. Les marchés de Noël prévus à Arnières et Verneuil ont été annulés, ainsi que la conférence d'attaque à Gisors, où nous sommes présents chaque année. Notre groupe Sensibilisation a quant à lui dû reporter à des dates à définir deux interventions prévues. En novembre, au lycée professionnel Aristide Briand et à l'école primaire d'Orme, ainsi que deux autres fixées en décembre, au lycée Aristide Briand également, et au lycée de Chambray. Enfin, le Père Noël d'Artisans du Monde n'a pas pu se rendre à la rencontre des Hébroïciens, contrairement à son habitude, et beaucoup ont regretté l'absence de dégustation de boissons chaudes devant notre boutique, dont le réputé vin chaud à la cannelle l'Artisan du Monde. Espérons que notre prochain agenda en février sera à nouveau riche d'annonces d'événements à vous faire partager.
Vous avez pu entendre successivement les musiques suivantes, Astrid et Jean Gilberto dans The Girl from Ipanema, avec Stan Getz au saxophone ténor, Carino par The Marias, et un extrait de Nawar et un autre de Doudja du superbe trio palestinien Joubran.
Artisans d'un autre monde.
Découvrez une nouvelle émission chaque dernier samedi du mois à 11h et toutes nos émissions précédentes en podcast sur principeactif.net.
Artisans d'un autre monde.